Bien, merci à tous d'être présents et mobilisés pour la forêt. Je vais rappeler très rapidement pourquoi on fait cette marche. Donc, d'abord, je me présente, Bernard de Guilaine, je suis représentant de l'intersyndicale des personnels de l'ONF Drôme-Ardèche, intersyndicale qui regroupe presque toutes les organisations syndicales de notre établissement. Donc on a décidé d'organiser cet automne une grande marche pour la forêt afin d'alerter le grand public sur le devenir des forêts publiques.
Marcher pour la forêt, une émission de Radio Zinzine. Nous sommes le 2 octobre 2018 à Valence, dans la Drôme, 9h du matin. Dehors, il fait froid, il y a un fort mistral. Avant de braver ces conditions presque hivernales, nous nous sommes retrouvés dans une salle près de la mairie pour quelques explications sur le sens de cette marche pour la défense des forêts. En fait, celle qui démarre ce jour-ci, à Valence, est la quatrième marche, car des groupes de marcheurs sont déjà partis 2 semaines auparavant de Perpignan, de Strasbourg et de Mulhouse. Toutes les 4 marches se dirigent vers la célèbre forêt de Troncé, dans l'Allier, où l'action terminera avec une journée de rencontres, de débats et d'autres happenings le 25 octobre. Revenons aux explications de Bernard Desguilaines, de l'intersyndicale chez l'Office national des forêts.
On a voulu ouvrir cette action aux associations et à tous les citoyens qui sont sensibilisés à la protection de l'environnement en général et de la forêt en particulier. Je remercie d'ailleurs pour leur soutien ici présent le représentant du RAF, donc le réseau des alternatives forestières, et les représentants de l'ASADO Rabon qui devaient venir. Donc je ne sais pas s'ils sont là. Ils sont là ? Très bien. À qui je donnerai la parole pour quelques mots juste après. À travers cette action, on a voulu inscrire le sujet de la forêt dans l'actualité de manière durable. On a voulu informer, alerter le grand public et les médias donc sur 2 sujets essentiels. Il y en aurait bien d'autres, mais on a quand même focalisé sur 2 sujets. C'est la privatisation de la gestion des forêts publiques et l'industrialisation de la forêt. Alors la privatisation de la gestion des forêts publiques, je rappelle que l'ONF a perdu 22% de ses emplois en 15 ans et 40% en 30 ans. Et j'ajoute à cela que plus de 200 postes vont être supprimés en 2019. Donc depuis 2015 et l'arrivée de la nouvelle équipe de direction, la privatisation s'est accélérée. Le déficit structurel de l'ONF ne peut plus être caché par les réductions d'effectifs, les ventes d'immobilier ou les artifices comptables. Pour combler ce déficit, les ministères de tutelle de l'ONF et la direction ont décidé de défonctionnariser l'emploi en ne recrutant plus de fonctionnaires en 2018 et 2019, ce qui était déjà le cas en 2016 et 2017, et en envisageant de supprimer définitivement le statut dérogatoire de l'EPIC ONF. C'est pourtant ce statut qui permet à l'ONF de recruter des fonctionnaires pour assurer ses missions régaliennes de service public et de police. L'emploi ONF est constitué aujourd'hui à 60% par des fonctionnaires et 40% par des salariés, principalement des ouvriers forestiers. Avec les nombreux départs en retraite actuels et des années à venir, les fonctionnaires seront rapidement minoritaires dans l'effectif ONF. On sait que ça s'est produit dans d'autres établissements. Je citerai les France Télécom, l'EDF ou la Poste. Et l'issue a toujours été la même, c'est le basculement du statut de l'établissement et la privatisation. D'ailleurs, des sources internes convergentes laissent entendre que la direction de l'ONF et les tutelles travaillent sur une hypothèse ONF Société Anonyme à l'horizon 2020. Donc si je récapitule, une activité relevant de plus en plus du domaine concurrentiel, le statut des personnels qui change, le statut de l'établissement qui risque de changer aussi. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison que la gestion des forêts publiques ne soit pas ouverte à des acteurs privés, ce qui aboutirait à la privatisation de la gestion des forêts publiques, privatisation qui s'effectuerait au détriment des fonctions environnementales et sociales des forêts publiques et donc de l'intérêt général. L'autre thème qu'on a choisi, c'est l'industrialisation de la forêt. Donc, depuis le début des années 2000, l'industrialisation de la forêt prend en Europe une nouvelle ampleur du fait des politiques de développement de bois énergie mises en œuvre par ses États membres. Bon, pour l'Union européenne, vous savez que l'objectif est de 20% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020 et 27% à l'horizon 2030. Bon, dans l'absolu, c'est une bonne chose, même si l'effort devrait porter en priorité sur les économies d'énergie. Mais en Europe, la production d'énergie renouvelable repose à près de 50% sur la combustion de biomasse solide, provenant principalement du bois récolté en forêt. Et affirmer que brûler de la biomasse forestière à la place d'énergie fossile serait une des solutions pour réduire les émissions de gaz carbonique est une aberration. Depuis le Grenelle de l'environnement en 2007, la France se couvre donc de chaufferie-bois et de centrales électriques à biomasse. On en avait quelques centaines en 2000, on est passé à près de 6000 en 2017. Et certaines de ces installations sont des aberrations économiques et écologiques, telles que la centrale de Gardanne, que vous connaissez tous, qui va importer 50% de son approvisionnement d'Amérique du Nord pour le brûler, avec des rendements dépassant à peine 30%. Le tout financé par 1,5 milliard environ d'euros d'argent public sur 20 ans via un tarif de rachat préférentiel de l'énergie produite. La demande en bois énergie est donc en très forte augmentation et couplée à une forte demande en résineux. La récolte s'intensifie. On multiplie les coupes rases, on transforme les peuplements feuillus en peuplements résineux. Je parle sur la forêt globalement, pas que la forêt publique, bien sûr. On pratique des éclaircies brutales, on récolte des arbres entiers, y compris les souches et les menus bois qui fertilisent les sols. Donc si je récapitule, et surtout je vous renvoie à l'excellent film Le temps des forêts qui est sur les écrans actuellement, l'industrialisation de la forêt croissante, et vu les contextes énergétiques à venir, il est urgent de réagir. Cette industrialisation, qui résulte de politiques publiques décidées au nom des citoyens, a commencé à dégrader les fonctions environnementales et sociales remplies par la forêt, la protection de l'eau, des sols, de l'air, la biodiversité, les paysages, l'accueil du public. La forêt est pourtant un de nos seuls atouts pour amortir les conséquences du changement climatique en cours. La forêt est notre bien commun puisque nous bénéficions tous de ses bienfaits. Il est donc de la responsabilité de chacun de la préserver. Chaque citoyen peut agir utilement pour obtenir la remise en cause des orientations prises. Ensemble, imposons les alternatives écologiquement vertueuses et économiquement viables qui existent et celles qui restent inventées. Pour la forêt, l'intérêt général et les générations futures.
Et nous voilà sur les routes et les chemins qui mènent de Valence à Alboussière. Première étape de cette marche. Donc, toi, tu es sur la marche ici, là. On est pas loin de Valence, là, le premier jour de cette marche qui va finir à la forêt de Troncé. Mais toi, tu travailles à l'ONF.
Oui, donc moi, je suis agent, ce qu'on appelait anciennement garde forestier. Donc maintenant, on appelle ça technicien forestier territorial. C'est mes jolis noms. Pour dire que, on est censé être des techniciens avec une certaine connaissance du terrain et une connaissance relativement approfondie de la sylviculture, quoi.
Et dans quel coin ?
Dans le 06, du côté de... dans le Mercantour, plus précisément à Isola.
D'accord. Alors, si j'ai bien compris, une des raisons qui pousse des gens de l'ONF, parce que c'est quand même l'intersyndicale de l'ONF qui a organisé cette marche, pourquoi, c'est parce qu'il y a de moins en moins de gens comme toi sur le terrain.
Oui, ça fait depuis donc 2002 essentiellement. Donc il y avait une première réforme en 86 qui avait sabré dans les effectifs. Mais depuis 2002, l'ONF est en réforme permanente avec suppression de personnel dès que c'est possible. Le souci, c'est que c'est fait sans réflexion à mon avis. On se retrouve à avoir perdu, je pense, de l'ordre de tiers des effectifs sur le terrain, alors que globalement, on a perdu un quart des effectifs sur la même période. Donc c'est clair que nous, forestiers de terrain, on est de moins en moins sur le terrain et de plus en plus à faire du travail qu'on nous confie gentiment avec des procédures informatiques qui nous éloignent vraiment de nos préoccupations premières.
Et en fait, quel impact réel, disons, par rapport... Bon, on pourrait parler d'abord peut-être de l'impact sur la forêt. Même, parce que j'ai compris un peu qu'il y a pas mal de souffrance et à l'ONF, parce qu'en fait, finalement, on est poussé à faire des choses que, parce qu'il y a des pressions avec lesquelles on est difficilement d'accord, non ?
Les pressions ne sont pas obligatoirement directes, elles sont plutôt de manière un peu larvée, un peu pernicieuse, dans le sens où on nous demande de faire plus avec moins. Et les demandes qui viennent justement du PPO, de cette réforme de 2002, c'est d'essayer de toujours récolter, de maximiser la récolte des bois dès que l'on peut, quoi. On se retrouve éventuellement à intérioriser des chiffres de récolte qui n'ont plus rien à voir avec la production réelle des forêts. Sous prétexte, par exemple, de réchauffement climatique, d'augmentation du CO2, on nous a fait croire que la forêt produisait plus et qu'il fallait récolter ce supplément de production de bois. Alors que dans les faits, on se retrouve à avoir des aménagements qui ont surestimé la réelle capacité de production des forêts, et avec des rotations prévues de coupe tous les 10 ans. Et lorsqu'on repasse au bout de 10 ans, la coupe a été bien faite, mais par contre on ne peut toujours pas intervenir si on ne veut pas décapitaliser trop fortement la forêt et conserver son aspect de naturalité et même sa capacité de production.
Mais ça veut dire côté, je sais pas, on pourrait dire social, mais on pourrait dire presque émotionnel ou disons humain. Je sais que, enfin, on en parle de souffrance assez profonde chez pas mal de gens à l'ONF. Et bon, le plus dramatique, c'est les suicides qui sont quand même assez nombreuses. Mais ça, tu sens autour de toi, parmi tes collègues ?
Oui, on sent une souffrance au travail, une souffrance éthique par le fait que. Il n'y a plus du tout d'accord entre les directives qui peuvent nous être données au niveau national. On sent une orientation vers la direction nationale et avec en sous-main le gouvernement qui semble penser que la forêt est un secteur très lucratif sur lequel on peut sans cesse demander toujours plus.
Alors comme un gisement de production, voilà, quelque chose de minier, quoi.
Oui, voilà, c'est vrai qu'on peut arriver à de l'extractivisme, à faire des récoltes dans des endroits où on sait qu'on va rien faire, on ne va rien faire après récolte. Et ce qui est problématique en termes de renouvellement, on peut laisser, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver que dans certains secteurs, les coupes aient lieu et que derrière, il n'y ait pas de travaux pour régénérer, ce qui fait qu'on va générer des clairières plus ou moins grandes qui vont mettre des décennies avant de se refermer. Et en termes d'image, c'est vrai que ça ne correspond pas du tout à ce que les forestiers avaient l'habitude de faire. Et je pense que ça fait partie des souffrances éthiques que l'on peut rencontrer. Et au-delà de ça, donc on se dit que notre métier, c'était quand même d'être forestier de terrain, et dont nous avons fait des formations pour certains très poussées. Donc le minimum maintenant quasiment, c'est d'avoir un BTS pour pouvoir rentrer à l'office en tant qu'agent de terrain. Et pour certains, bon, c'est plutôt avec des DEA. Et tout ça pour se retrouver éventuellement derrière un bureau à remplir des devis pour faire intervenir d'autres personnes que nous qui avons plutôt l'expertise de terrain, et on nous met derrière les bureaux alors que nous ne sommes pas du tout compétents en la matière. Donc on se retrouve à avoir des inversions de rôle qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on souhaitait faire auparavant. Donc ça, c'est pour l'aspect efficacité au travail. Et puis après, y a ce côté éthique où on se demande si nos patrons ont vraiment une vision pour l'établissement, qui est un établissement public au départ, avec une vocation sociale, économique, environnementale. La fonction économique semble vouloir prendre le pas, et au détriment de la forêt. Ce qui prime actuellement, c'est d'aller vers des conventions, des activités qui peuvent être lucratives, voilà. Au détriment de ce qui ne l'est plus, c'est-à-dire la surveillance générale des forêts, au détriment des suivis de coupe, au détriment de même éventuellement du martelage et donc le choix des essences, le choix des arbres à abattre. On risque de perdre beaucoup d'expertise et au final de perdre la capacité de production de nos forêts. Donc voilà, la souffrance peut venir à ce niveau-là parce que techniquement, on risque de perdre beaucoup de choses et puis qu'on ne sait pas non plus si notre métier, demain, il existera encore.
Mais je veux dire, un des problèmes de base, il me semble, c'est que, voilà, vous gérez, bon, c'est la forêt publique, parce qu'il y a aussi les forêts privées, mais vous avez, voilà, à peu près le quart des forêts en France à gérer. Et le seul entrée, à part, bon, il y a un peu une sorte de subvention de l'État, si on veut, mais sinon, c'est, en tout cas, de point de vue entrée, c'est uniquement la production de bois. Alors on sait que les forêts ont un rôle absolument primordial pour la purification de l'eau, enfin pour une eau pure et de bonne qualité, pour éviter l'érosion, aussi pour le climat. S'il fallait payer tout ça à quelqu'un parce qu'on n'avait plus les forêts, je veux dire, ce serait impossible, quoi. Mais le problème de tout ça, c'est est-ce que c'est pas vraiment... ça ne rentre pas dans la comptabilité, si on veut, si j'ai bien compris.
Ben c'est ce qui me fait plaisir, enfin, vous abordiez le problème des aménités positives de la forêt. C'est qu'en fait, nos patrons ne voient pour l'instant dans la forêt que des planches de boue, des mètres cubes. Alors que la forêt, c'est bien autre chose. Et ce qui est vraiment décevant de la part de dirigeants qui sont censés faire de la prospective, c'est de se dire que pour 200 ou 300 millions d'euros par an, qui correspond au budget que l'État consacre à l'office par des biais divers, nous sommes capables de gérer de l'ordre de 10 à 15% des surfaces et d'alimenter 40% de la filière bois. Ce qui n'est pas rien. Et la filière bois, qui est quand même la deuxième filière économique de France, et deuxième déficit, derrière en termes de balance des paiements, au niveau français, après la facture énergétique. Donc je trouve que pour 200-300 millions d'euros, c'est vraiment gagne petit. Et on pourrait, je pense, améliorer grandement la gestion des forêts, et justement prendre vraiment en compte ces aspects d'aménité positive, en se disant ben oui, qu'on ne va surtout pas faire ce qu'on a fait dans l'agriculture, intensifier toujours plus, pour au final se retrouver avec de l'eau polluée, de l'air saturé de polluants, des forêts éventuellement privatisées pour le compte, je ne sais pas moi, des exploitations, de la chasse ou d'autres choses encore. Et alors qu'actuellement les forêts sont ouvertes et correspondent à des puits, enfin des puits de carbone, mais aussi des bols d'air pur pour les citadins qui ne demandent que ça éventuellement pour se récréer, se ressourcer le week-end ou en vacances. Donc je pense que vraiment, il faudrait que dans les comptes que l'on demande à l'office, il y ait vraiment cet aspect-là des choses. Et le pire consistant aussi à voir ce que la forêt peut apporter comme bien pour les eaux, les eaux de consommation potable. Il suffit de voir que les grands aquifères du bassin parisien sont situés sous les forêts de type Orléans, Fontainebleau, pour se dire que ça ne coûte pas si cher que ça d'avoir de l'eau de qualité très respectable et sans faire des efforts invraisemblables. Donc la forêt, c'est de l'eau, c'est du bien-être social, mais c'est aussi pour les animaux une réserve. Parce qu'il y a aussi, parmi les aménités positives, on a quand même l'aspect environnemental. La forêt, donc avec les 25% en gros du territoire français qui sont forestiers, sert actuellement de réserve à la biodiversité, et de la biodiversité même qui n'est pas forestière dans certains cas. On est obligé, dans certains massifs forestiers, d'aménager des zones ouvertes pour pouvoir préserver des espèces de milieux ouverts qui ne trouvent plus leur place dans les milieux agricoles, qui ont été profondément transformés ces dernières années, et qui, à mon avis, sont détruits pour encore quelques décennies, quoi.
C'est intéressant que vous parlez de l'agriculture, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines comparaisons qu'on pourrait faire maintenant avec l'agriculture il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'il y avait aussi la chimie, un peu le début de... Enfin, pas mal des grands espaces, les mécanisations, etc. Mais il y avait quand même quelques personnes qui ont commencé par les bio, nature et progrès, enfin il y a... Mais on trouvait tout ça un peu ridicule, ils n'étaient pas très pris au sérieux. Et maintenant, c'est devenu un débat de société, complètement, quelque chose d'hyper présent, la question alimentation, agriculture. Là, avec votre marche, avec le film Le Temps des Forêts, avec une sorte d'engouement pour les arbres, on est peut-être au début d'une prise de conscience, pas seulement d'aimer les arbres, mais de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les forêts en France. Je ne sais pas si toi, vous avez un peu cette impression.
J'aimerais bien être persuadé qu'il y ait une prise de conscience de la part du grand public de l'intérêt du milieu forestier au-delà de l'arbre en lui-même, dans la mesure où justement ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la forêt n'est pas que une accumulation de bois, d'arbres et donc éventuellement de planches debout. L'intérêt de la forêt, c'est le milieu qui est constitué et qui est relativement peu anthropisé. Il est anthropisé, il n'y a pas de problème, les forêts primaires, on n'en a plus en France, mais il y a des secteurs où on peut s'en rapprocher. Et également, même les secteurs où on va éventuellement travailler pour préserver une forme de biodiversité, le fait d'y avoir travaillé avec certains regards permet d'amener un maximum d'effets positifs pour les espèces ou les milieux que l'on souhaite préserver, quoi.
Peut-être une dernière question. Quand même, vu de l'extérieur, Bon, il faut dire, j'étais à la manif des gens de l'ONF, l'indice syndical à Paris en décembre 2017. Grande manif, très bruyant et plutôt joyeuse. Vous êtes vraiment l'indice syndical de l'ONF assez... Vous êtes allé assez loin dans la... On pourrait dire la révolte, ou alors en tout cas par rapport à la direction de l'ONF, on dirait. Je veux dire, il y a vraiment une crise assez grave à ce niveau-là, on dirait.
Donc moi, je représente un syndicat, le syndicat majoritaire, l'ONF, le SNUFEN. Oui. Donc ce syndicat, oui, est, on va dire, assez remuant, mais par la force des choses. En fait, cela fait des années que le discours de la direction est lénifiant, limite malhonnête. Il peut y avoir des dires qui sont dédits, qui sont contredits sous les 15 jours auprès de notre direction. Donc la confiance auprès de notre direction est vraiment très très réduite. Et c'est pour ça qu'en fait les manifestations font souvent référence à une demande de démission de notre direction qui s'est montrée plus qu'entêtée dans le sens des réformes. De réformes non voulues, de réformes imposées et de réformes contre-productives. La seule chose à laquelle nous risquons d'aboutir, et c'est pour ça que vous parliez de manifestations remuantes, la seule chose à laquelle on risque d'aboutir, c'est un établissement qui sera complètement recentré vers l'exploitation forestière et sans vouloir être critique vis-à-vis de ces structures, j'ai l'impression qu'on essaie de nous orienter vers le système coopératif, privé, mais dont ce n'est pas du tout le même objet. Nous représentons quand même la gestion des forêts publiques. Et donc, en cela, nous devons être exemplaires pour ce qui est de cette gestion multifonctionnelle. Et notre direction ne montre pas du tout de signes dans ce sens-là, et abuse de son autorité pour éventuellement licencier, pousser à la placardisation de certaines personnes qui éventuellement n'iraient pas dans le sens qui est imposé par notre directeur Dieu le Père. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la dernière question. Tu me disais oui, par rapport au public. Oui, donc par rapport publicité par rapport à la reconnaissance de l'intérêt du public sur les problématiques forestières, j'ai encore l'impression, enfin, je ne serai pas aussi optimiste.
Ouais, c'est un début.
Oui, voilà, on est vraiment sur des prémices. Oui. Et bon, c'est possible que ça fasse comme dans l'agriculture, c'est-à-dire qu'on se rend compte dans 50 ans qu'on avait entamé dans les années 2000-2010 des réformes qui allaient dans un sens et qu'il va falloir revenir en arrière. Et le problème, c'est que la forêt, c'est quelque chose qui réagit très très lentement, surtout quand il s'agit de reconstitution. Pour ce qui est de la détruire, il n'y a pas de problème, ça peut aller très vite. Mais pour ce qui est de la reconstruire, ce sont des cycles qui sont de l'ordre du siècle, voire de plusieurs siècles. Donc ce serait dommage que, sous prétexte de presque de caprice de dirigeants qui pensent qu'on va financer, qu'on va baisser un déficit de 0,1%, un déficit du budget de l'État, on va laisser filer la gestion des forêts, qu'on va l'abandonner éventuellement aux exploitants forestiers, dont le métier est bien d'exploiter, mais pas de gérer les forêts. Donc sous prétexte de faire des économies, on va abandonner la gestion des forêts aux exploitants forestiers, qui eux, vont... vont faire au plus rapide pour eux, au plus économique, et vont certainement aboutir, ce qui va certainement aboutir à une paupérisation de nos peuplements, voire même dans certains cas des pillages auxquels j'ai pu assister à certains endroits.
Merci. En fait, je voulais demander si tu avais envie de dire quelques mots sur pourquoi tu viens sur cette marche.
Eh bien, j'ai la forêt, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Oui. J'ai passé tous les dimanches et plus, des vacances, tout ça, arpenter la forêt à côté de là où j'habitais, parce que mon père était ingénieur aux eaux et forêts et puis à l'ONF. Uh-huh. Et je me rappelle avoir vu la première coupe rase en promenant avec lui. Je ne sais plus pas quel était le fond de sa pensée. Je pense qu'il n'était pas bien d'accord, mais en même temps, il ne parlait pas beaucoup de son travail. Donc voilà. Mmh. Et plus récemment, j'ai rencontré les gens du réseau des alternatives forestières. Et donc, j'ai rencontré notamment Pascal, avec qui on a lié des liens d'amitié. Et voilà, notre point commun, c'est la forêt. Donc, grâce à elle, ben, je suis allée à l'Assemblée Générale dans le Morvan. J'ai fait différentes démarches qui font que je suis l'actualité d'aujourd'hui de plus près et que je me rends compte qu'il y a une vraie urgence écologique. Ouais. Donc, ce qui se passe, les coupes rases, c'est devenu très fréquent. Je le vois quand je fais de la randonnée en Drôme-Ardèche. Et c'est impressionnant comme ça va vite, ça détruit des paysages, des espaces naturels et tout.
Et donc, c'est de Pascal que tu as entendu parler de cette marche,
oui,
en fait
pas directement, mais voilà, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, il faut que j'y aille. Ouais. Et bon, j'avais déjà un agenda un peu rempli, donc je ne fais que la journée. Mais voilà, c'est ma petite part à l'édifice. Et en espérant qu'on sera entendu un jour, que la forêt, c'est notre patrimoine à tous, même si elle est privée pour la plupart, et que la forêt, c'est notre protection. Elle participe à notre bien-être, notre capacité à vivre sur la terre. Donc je pense que c'est important que les gens qui font autrement, qui gèrent des exploitations, qui font de la sylviculture douce, comme on appelle ça, soient entendus.
Mais merci. Alors, Moussi, comment ça se fait que toi qui habites dans l'Aude, tu es arrivé ici à Valence et que tu t'es mis dans cette marche?
Eh bien, écoute, c'est vraiment un concours de circonstances. Déjà, dans un premier temps, j'avais décidé de ne pas faire la rentrée et au mois d'octobre d'aller vivre une aventure collective et militante. C'est exactement ce que je disais. Et au départ, j'avais prévu d'aller à Longomaille et de m'impliquer dans ce collectif militant. Et puis, j'ai entendu parler de cette marche. Donc, j'ai été chercher les infos et je me suis dit vraiment, c'est exactement pour moi, cette marche. Et je me suis inscrite. Alors, au départ, j'étais sur le circuit du Tarn, et qui paraissait plus logique par rapport à ma localisation. Et finalement, quand j'ai entendu qu'il y avait un festival ce week-end à Cré, eh bien, ça correspondait complètement au départ de Valence. Et quelque part, je trouve ça super d'être là symboliquement au départ et d'aller jusqu'à l'arrivée. Ça me paraît vraiment cohérent et je trouve ça vraiment super, quoi, ce concours de circonstances.
En fait, tu fais partie des rares qui... C'est quand même un peu plus de 3 semaines de marche, hein, c'est pas rien.
Ouais, je crois, des fois, ce matin, enfin là, maintenant, je suis en train de me dire, j'espère que je suis pas inconsciente, mais je crois que j'ai vraiment envie, symboliquement, comme je disais, d'être là au départ et d'être là à l'arrivée et de vraiment aller jusqu'au bout dans cette démarche et de vraiment porter cette parole de sauvegarde des forêts. Parce que je suis vraiment au départ une militante du vivant, de la biodiversité, et ça me paraît cohérent, quoi.
Juste pour rappeler, toi, tu es dans plutôt les formations par rapport aux plantes, non ?
Oui, moi je suis dans les formations sur les plantes sauvages, aussi bien médicinales, comestibles et bio-indicatrices. et beaucoup sur aussi les écosystèmes et les équilibres de tout ce qui est végétal au départ.
Et ça t'amène en forêt, tu cherches ces plantes aussi?
Ah ben bien sûr, en forêt, il y a plein de plantes aussi. Et puis il y a des arbres médicinaux, les bouleaux, les bourgeons de pin, enfin voilà, c'est les aubépines. Ah oui, oui, bien sûr, et puis la forêt, c'est un milieu magique. Hein. Je n'ai pas encore rencontré les petites fées, mais il y a quand même quelque chose de fort en forêt. Mais ce n'est pas le milieu où je suis le plus, paradoxalement. C'est vrai que paradoxalement, je suis à la limite plus dans les bords des chemins, les champs, les cultures aussi, hein, parce que je ramasse aussi des plantes dans les cultures, surtout les plantes comestibles. Mais je fais pas mal de milieux, la montagne aussi et la forêt. Mais c'est des plantes très spécifiques en forêt. Mais c'est plutôt l'atmosphère qui est sympa. Et c'est vrai que je suis dans l'eau, dans un endroit où il fait chaud, et la forêt, il y a la fraîcheur. Donc je suis pas mal amenée quand même en forêt pour faire des récoltes.
Ben là, vous allez être balayée par le mistral. Moi, c'est peut-être un peu trop de fraîcheur.
Là, justement, je me dis, j'espère que ça va pas durer. Et j'espérais pouvoir garnir les repas du soir avec un peu de plantes. Mais là, je viens de me rendre compte que la sécheresse est passée par là et qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir être dans les assiettes pour pouvoir mettre un peu de verdure. Et comme je disais tout à l'heure à certaines personnes, aussi pour nous donner un peu d'énergie, pour avoir la patate pour faire... Parce que c'est vrai que 3 semaines, c'est pas rien, hein. Mais c'est un peu un défi que je me fais aussi à moi-même. Mais c'est vraiment le plaisir de colporter une parole dans cette lutte. Et je vois, pour moi, c'était très important ce matin, le discours qu'on a fait au départ, où j'ai vu qu'il y avait vraiment une convergence des luttes. Il y avait vraiment... il n'y a pas que l'ONF. Enfin, je trouve déjà très bien que l'intersyndicale de l'ONF lance cette marche et qu'il y a un répondant de tous les amoureux de la nature. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, entre Gardanne, entre les ZAD, où on détruit... Les lieux et tout, eh bien en fait on est tous concernés par la sauvegarde de la forêt, quoi.
Merci. Alors qu'est-ce qui t'amène ici à Droitbon à venir sur une marche qui est organisée par l'intersyndicale de l'ONF?
On est venu avec un groupe du collectif de la NINA, c'est un collectif qui s'appelle le Center Park Ni Ici Ni Ailleurs, et on est venu pour soutenir l'intersyndicale dans sa lutte contre le plan régional bois. Parce que de notre point de vue, il y a un problème sur les politiques nationales qui sont posées autour de la gestion des forêts. Et Roibon est un terrain sur lequel on observe depuis 3 ans et demi, 4 ans, les pratiques forestières. Et on a des choses qui nous rebutent dans ces pratiques forestières. Donc on a envie de soutenir l'intersyndicale qui essaye de re-questionner ses manières de faire.
En fait, là où vous êtes, vous commencez à... apprendre et à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les forêts qui sont sur cette zone qui devait devenir une espèce de centre touristique.
Oui, c'est ça. C'est une parcelle de forêt communale qui fait 220 hectares, qui était censée devenir un pôle de vacances construit par la multinationale Pierre et Vacances. Et donc sur cette parcelle de forêt était censée être construite une bulle tropicale d'un hectare chauffée au bois toute l'année, un millier de cottages pour recevoir 5000 vacanciers toute l'année puisque tout est chauffé toute l'année. Mais c'est écologique, c'est au bois, c'est chauffé au bois. Et donc cette parcelle qui était censée être à la base une parcelle communale de forêt dans laquelle il y avait des usages de personnes qui venaient se balader, de randonneurs, de cueilleurs, etc. Et dans laquelle il y avait aussi les potentiels d'affouage. Aujourd'hui, elle a été changée en parcelle constructible dans le plan local d'urbanisme, dans le PLU. Et elle est destinée à être une ville à côté de la ville, quoi, une ville dans la forêt. Et c'est le concept de Pierre et Vacances, c'est de récupérer des parcelles boisées et d'en faire des parcelles urbanisées.
Et en fait... Voilà, vous vous retrouvez au centre d'une forêt, le Chambaron, c'est une très belle forêt, une grande forêt. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ensemble pour aborder cette question? Parce que vous venez pas d'école forestière, ou je sais pas, vous avez fait des formations.
Alors, il y en a d'entre nous qui ont un bagage d'école de forêt, d'école forestière, pardon. Il y en a d'autres d'entre nous qui sont la majorité du coup à ne pas avoir eu ces formations vis-à-vis de la forêt et qui ont sur le tas et en lien avec des associations comme le RAF, grâce à leur soutien au réseau, etc., à avoir accès. On a réussi à avoir accès à ces formations et à cette compréhension de la forêt. Et donc ça nous a changé le regard qui, à l'origine, au moment où ces groupes-là sont arrivés sur cette parcelle pour bloquer ce chantier, à ce moment-là, il y avait plutôt un imaginaire qui était de l'ordre de défendre les arbres à tout prix, quel que soit l'arbre et dans toutes les conditions. Et après, au fur et à mesure qu'on comprenait qu'on était sur une parcelle cultivée, gérée pour faire de la production de bois, etc., la manière dont on a vu ces arbres a changé, en tout cas pour une partie d'entre nous. Et aujourd'hui, le rapport qu'on va avoir avec cette forêt a évolué. On a toujours autant de respect pour cette matière, pour ce vivant. Par contre, le rapport et les usages qu'on va avoir avec elle ont changé.
Moi, j'étais frappé par le fait que le secrétaire général, en fait, du principal syndicat à l'ONF, est récemment monté à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qui était très impressionné par le travail réalisé par les occupants, les habitants dans les forêts, mais qui est aussi intéressé par soutenir en quelque sorte des gens qui viennent complètement en dehors du métier, de la profession, mais où il a vraiment apprécié le travail. Et je ne sais pas si vous avez fait ça à Wabon, mais en tout cas, il me semble que c'est aussi un intérêt. Il y a grande ouverture aussi chez les gens qui organisent cette marche pour des initiatives comme chez vous.
À Wabon, il y a un groupe de personnes qui s'est mobilisé pour prendre en main de l'outillage et des pratiques de travail de la forêt. Ça représente une partie des personnes. La manière dont sur place, avec l'ensemble des personnes, on essaye de faire, de faire avec le bois, de faire avec cette matière, elle est très relative à chaque groupe. Enfin, certains ne vont pas vouloir utiliser les machines, d'autres vont vouloir utiliser les machines. On se transmet les informations concernant le bois qui a déjà été coupé, qui est sur place, pour comprendre les essences, les tailles, parce que c'est clair que du bois de sillage de 80 ou 60 cm de diamètre va être beaucoup plus dur à travailler pour faire du bois de chauffe ou du bois d'œuvre sans outillage. Et donc évidemment que les groupes s'orientent. Enfin, après les discussions, on se rend compte que telle essence ou tel diamètre de bois qui a été abattu pendant le chantier pour faire le défrichement de pierres à vacances du site de construction, et bien tel bois est beaucoup plus approprié pour la construction ou plus approprié pour la chauffe.
Allez, on peut le faire en marchant.
Alors on a fait des balades avec des retraités de l'ONF, il y en a eu quelques-unes. C'était entre autres dans des coins dans le massif des Chambarans pour observer certaines zones assez particulières de zones humides qui ressemblaient à celles sur le terrain de Pierre et Vacances, qui permettaient de comprendre la logique forestière qui avait lieu à cet endroit-là. Après, au niveau des relations avec l'ONF, nous, on est là aujourd'hui aussi pour pouvoir se rencontrer, pouvoir réussir à mettre un peu des visages sur des idées et justement avancer là-dedans, dans les relations qu'on peut construire avec les gens de l'ONF. Aujourd'hui, vraiment, on est là, un groupe de personnes qui viennent de 3 sites qui s'opposent au projet de Center Park sur des parcelles forestières. Le site de Poligny, dans le Jura, et le site du Roussin en Saône-et-Loire. Donc ces 3 Center Park, le Roibon et ces 2 autres sites, sont 3 projets de Center Park, contre lesquels un groupe qui s'appelle le collectif de la Nina, ni ici ni ailleurs, s'organise pour bloquer.
En fait, les autres, il s'agit aussi de zones forestières.
C'est ça, en fait, ça c'est le concept de Pierre et Vacances, c'est de récupérer des parcelles boisées et de changer leur statut juridique en les faisant passer en zone urbanisable. Et sur ces 2 autres sites, les projets n'ont pas encore été commencés, le chantier n'a pas commencé, mais l'opposition existe déjà contre les enquêtes publiques et contre toutes les mesures d'acceptabilité qu'ils sont en train de mettre en place.
Mais en fait, chez vous, quand même, il y a des décisions juridiques, judiciaires, qui vont dans votre sens, en fait, pour le moment, non ?
Oui, ouais, donc au niveau juridique, Pierre et Vacances a été rebooté 2 fois. Une fois à la cour administrative de Grenoble, et une fois en appel à Lyon avec 5 juges mobilisés pour ça. Donc une sorte d'audience particulière, spéciale, pour donner du poids à la décision. Et malgré ça, malgré le fait qu'ils aient été refoulés à ces niveaux-là juridiques, ils ont fait appel quand même au Conseil d'État. Et là, au Conseil d'État, ça fait 1 an et quelques qu'on attend la décision. pour savoir si Pierre et Vacances n'est pas du tout dans les clous ou s'il est possible quand même pour eux de trouver une manière de se réaliser dans ce projet-là. Quoi. Là, une des problématiques qu'on rencontre, c'est qu'ils sont en train de vouloir modifier la définition des zones humides pour réduire leur surface. Mmh. Donc avant, à Roibon, il était question de 76 hectares de zones humides. Depuis cette redéfinition qui est en train de passer dans les lois, mais ce n'est pas encore tout à fait fait, on passerait à 5 hectares. Ouf. Et donc là, ce qui a bloqué Pierre et Vacances depuis 2015, début 2015, c'était ces histoires de compensation des zones humides et qu'ils n'avaient pas suffisamment de surface. Mais là, s'ils passent de 76 à 5 hectares, ça va être beaucoup plus facile pour eux de réaliser ce genre de projet.
Mais c'est aussi un enseignement peut-être pour les autorités par rapport à Notre-Dame-des-Landes, parce que là aussi, c'était beaucoup les zones humides. Hein.
C'est ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à faire du bruit autour de ça et de faire en sorte que le ministère de l'Environnement, qui lui pose des réserves sur cette redéfinition des zones humides, de réussir à ce que ces institutions-là ne laissent pas passer ce changement-là.
D'accord. Ok, et merci. Bon, voilà Anne, le réseau pour les alternatives forestières participe à cette marche pour la forêt. Quelques mots sur le RAF, le réseau pour les alternatives forestières, et pourquoi en fait ce réseau sont proches ou veut participer à cette marche.
Le réseau pour les alternatives forestières, on dit souvent RAF, donc réunit des citoyens et des professionnels de la forêt et du bois, pour en fait parler de la question forestière et voir comment on fait pour construire des alternatives à tout ce qui se passe en forêt actuellement, c'est-à-dire l'industrialisation, la mécanisation, le fait qu'il y a une perte des repères en termes de gestion forestière. On est sur une gestion de plus en plus à court terme, donc une perte des valeurs de sens du métier de forestier. Et du coup, voilà, nous, ça nous a paru important au niveau du RAF de soutenir cette marche parce qu'elle est portée par des forestiers, beaucoup des gens de l'Office national des forêts, qui en fait ne trouvent plus de sens dans ce qu'ils font et ont l'impression que la forêt française publique est bradée. Et effectivement, on a aussi cette impression-là au sein du RAF, en tout cas au sein des gens qui fréquentent les gens qui travaillent en forêt publique. Et on considère également qu'en forêt privée, qui couvre quand même 70% du territoire, la forêt française, c'est également une grande braderie forestière dans laquelle les gens achètent de la forêt, coupent les feuillus, plantent des résineux, se soucient ni de l'écosystème, ni d'une valorisation locale des bois, mais ils trouvent juste un moyen de faire du profit. Or, au niveau du réseau, nous, on essaie de mettre en relation toutes les personnes qui veulent retrouver du sens, qui ont vraiment un profond respect pour la forêt et essayer de travailler le maximum en gestion douce, avec une mécanisation qui va limiter l'impact des prélèvements forêt, avec une répartition des rémunérations la plus équitable possible entre les différents acteurs, que soit le propriétaire, le gestionnaire, les gens qui vont prélever le bois en forêt, les bûcherons, et également tous ceux qui vont le transformer.
Ce que je trouve frappant aujourd'hui aussi, avec un peu le discours de ceux qui organisent cette marche, parce que c'est quand même vraiment l'intersyndicale au sein de l'ONF, c'est qu'il y a une grande ouverture, une grande recherche même d'alliés, on pourrait dire, d'essayer d'intéresser, disons, au-delà de la profession, et notamment la profession au sein des forêts publiques. C'est quand même relativement nouveau, on dirait. Bon, en tout cas, je trouve ça important, et pas au-delà du RAF, par exemple, mais juste simplement des citoyens. Que ça devient plus un débat citoyen de l'avenir des forêts en France, quoi.
Voilà, ben nous, c'est pour ça qu'au niveau du RAF, on s'est vraiment intéressé à cette marche et qu'on a souhaité la soutenir. C'est que c'était pas juste l'intersyndical de l'ONF qui appelait le personnel de l'ONF à faire une marche. C'est l'intersyndical de l'ONF qui incite les citoyens à prendre en considération l'avenir des forêts publiques, dire voilà, vous avez votre part, qu'est-ce que vous pensez des forêts publiques? Nous, on vous dit qu'on n'arrive plus à la gérer comme on veut, que sur certaines forêts, il y a trop de prélèvements qui se font. Sur certaines forêts, voilà, les gens sont déprimés, n'arrivent plus à travailler correctement parce qu'on leur met une pression financière très forte. Et que du coup, voilà, on n'arrive plus à gérer les forêts publiques correctement. Et ces forêts publiques, ce sont les vôtres, ce sont celles des citoyens, ce sont vos paysages, ce sont votre eau, votre air. Et voilà, au niveau du RAF, ça nous a vraiment plu que cette marche soit effectivement organisée, mais qu'elle associe à le maximum de personnes, enfin toutes les personnes qui avaient envie de s'impliquer auprès des gens de l'ONF. Et cette marche est un formidable moyen de les rencontrer, de mieux connaître leur façon de travailler, leurs problèmes. Et vraiment là, il y avait des gens de tout horizon, il y avait des citoyens, il y avait des gens qui travaillaient sur le terrain, en forêt, d'autres qui étaient dans service bois, des retraités de l'office, et des gens qui étaient sur des sites en lutte. Enfin, il y a une diversité de public. Et nous, vraiment, voilà, c'est cette diversité qu'on recherche aussi au niveau du RAF, parce qu'on pense que c'est ce qui va permettre de vraiment débattre de la forêt, de s'emparer de cette question forestière et de la gérer mieux ensemble.
Voilà, en fait, cette marche va finir le 24, arriver le 24 à la forêt de Troncé, et puis le 25, ça va être une journée importante de rencontres, de rassemblements, etc., de débats, quoi. Ils ont invité le RAF, entre autres, à participer. Tu sais un peu plus ce qui va se passer ?
Oui, normalement, c'est un grand final, un grand rassemblement où il y aura un forum des associations qui va être organisé, donc avec toutes les associations qui sont impliquées dans cette marche et l'ont soutenue. Il y aura également des espaces théâtre, concerts. Il y aura des tables rondes également organisées. Donc le RAF, effectivement, il sera présent. Je crois qu'il y aura un chantier également de débardage à cheval. Donc moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça va être dans une forêt emblématique des forêts publiques. C'est que la forêt de Troncé, c'est une des plus belles forêt, une des plus belles chaînées de France, et que ce rassemblement ait lieu à cet endroit-là, ça me paraît extrêmement important. C'est une façon de dire, voilà, c'est ces forêts-là qu'on aime, c'est ces forêts-là qu'on veut développer, des forêts diversifiées qui ont de la valeur, qui font du bois d'œuvre, du bois qui va dans la construction, qui va durer. Voilà.
C'était Marcher pour la forêt, une émission de Radio Zinzine. Toutes les musiques qui ont accompagné cette émission sont du quartet Amstel. C'est un quartet néerlandais de saxophonistes. Si vous souhaitez réécouter ou télécharger cette émission, vous pourriez la retrouver sur le site de Radio Zinzine, www.radiozinzine.org.